Avertissement pour les personnes sensibles et notamment les enfants. L'émission qui suit contient des descriptions de violences, tortures, mutilations, telles qu'on peut en pratiquer dans une dictature fasciste. Le train fantôme. Une série de Jean-Baptiste Diaz. Premier épisode, extrait des mémoires de guerre de Jean Diaz.
Est-ce que tu te souviens du temps qu'il faisait ce 18 août 44 ?
Chaleur épouvantable, pas de vent. 37 à l'homme, moi. Et moi, je me trouvais dans cette maison, là. Puis, à un certain moment, le silence.
J'étais ici, à l'ombre des platanes. Et d'un coup, au virage, là-bas, on voit déboucher une troupe, elle tenait toute la route, et encadrée par des Allemands armés.
J'ai traversé la route ici, devant l'hôpital militaire. Par là, j'ai vu la colonne, le début de la colonne. Ce n'était que des femmes qui se trouvaient là, dépenaillées, épouvantables, mais... Je suis arrivé au niveau de la maison de mes parents, j'ai vu que ça continuait sur des hommes. J'avais déjà croisé le premier fait de gendarme. Le second qui se trouvait là-bas m'a fait rentrer dans la maison. À Raust, il y avait une colonne de fait de gendarme qui marchait en regardant les prisonniers. D'autres colonnes, dos à dos, regardaient du côté de la population.
J'ai vu passer tous les prisonniers. Ils tenaient toute la route. On aurait dit des bagnards. Ils faisaient pitié même à les voir. Vraiment une salle, c'était un peu des guenilles qu'ils avaient. Hein.
Ici, j'ai très bien vu le képi du gendarme, j'ai très bien vu le curé. Là.
Dans les 700 personnes qui marchaient, il y avait un curé, un gendarme et un facteur.
Il y avait un facteur, mais c'est les prisons d'Orange que l'on vide. Ce sont peut-être des juifs, c'est peut-être autre chose, mais il y a un curé. C'était impressionnant, c'était vraiment impressionnant.
Ce 18 août 1944, dans la petite ville de Sorgues, pas très loin d'Avignon, Charles, 11 ans, et Joseph, 16 ans, voient passer environ 700 prisonnières et prisonniers férocement encadrés par des soldats allemands. Cohorte en marche vers la gare de Sorgues où un train attend. On ne sait pas encore que ce convoi et ses 700 déportés partent pour Dachau, ni que ce convoi sera bientôt baptisé le train fantôme. Salut les amis, c'est la voix off, c'est JBD, Jean-Baptiste Diaz. Je vous le précise aujourd'hui, car il va être question de Jean Diaz, mon grand-père. Bienvenue à vous pour le premier épisode de cette longue série d'émissions à venir autour de la funeste, macabre, incroyable odyssée du train fantôme. Une histoire que j'ai envie de vous raconter depuis bien longtemps, une histoire dont j'entends parler depuis mon enfance. J'ai le souvenir que quand mes cousines et moi en étaient petits, ma grand-mère Suzanne nous racontait une aventure extraordinaire qui était arrivée à Jean, son mari, notre grand-père, le protagoniste de cette histoire, mais que lui ne narrait qu'en de très rares occasions. Mamie nous racontait donc comment, pendant la guerre, papy s'était évadé d'un train en marche qui l'emmenait en Allemagne. Et mamie, qui n'avait pas vécu la chose, nous tenait en haleine, nous les gamins, en nous expliquant comment, avec une toute petite lame, papy et d'autres avaient précautionneusement, pendant des jours, fait un trou dans la porte en bois du wagon de marchandises, passé la main pour ouvrir de l'extérieur et sauter dans le noir du train en marche. Mais cette histoire souvent racontée était l'une des aventures importantes de papy qui en avait connu bien d'autres, comme ses autres évasions, ou comme la fois où il avait blessé, peut-être même tuer un soldat allemand avec le casque de l'allemand. Bien qu'ayant presque toujours connu cette histoire qui flottait hors contexte, j'ai mis très longtemps à comprendre que mon grand-père, l'évadé, avait été déporté. Et puis dans les années 90, mes grands-parents sont mis à beaucoup parler d'une amicale du train fantôme de la ville de Sorgues. Et en 2014, pour la 70e commémoration du passage du train fantôme par Sorgues, je suis pour la première fois parti en reportage là-bas. Mais c'est enfin le moment de nous lancer dans cette terrible et passionnante saga. Mais avant cela, quelques mesures d'un succès de 1941, chanson que ma grand-mère, alors jeune épouse, a peut-être entendue, en attendant l'éventuel retour de son mari que la guerre lui avait pris, et dont elle n'eut aucune nouvelle pendant des mois, sans savoir s'il était vivant ou mort.
Je viens de fermer ma fenêtre, le brouillard qui tombe est glacé. Jusque dans ma chambre, il pénètre, notre chambre où meurt le passé. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour.
Je suis seul ce soir par Léo Marjan pour ouvrir le premier chapitre de notre série du train fantôme. Fantôme, car pendant des semaines, ce convoi de déportation va sillonner la France de l'été 1944, être maintes fois arrêté, abandonné, rééquipé ou reconstitué plus loin. Partir, revenir, apparaître et disparaître comme un Hollandais non pas volant, mais roulant. Vous apprendrez les péripéties de cette histoire avec les épisodes à venir, mais pour commencer, je vous propose aujourd'hui un document extraordinaire. Un écrit dont la lecture fut ma première prise de conscience sérieuse de ce que furent la guerre et la captivité en Allemagne, vécue par mon grand-père, le sergent Jean Diaz, entre 1940 et 1944. Histoire d'un soldat évadé dont le train fantôme est un épisode parmi d'autres. Une fois rentré chez lui, le 27 décembre 1944, Jean Diaz mettait le point final à un récit de 50 pages tapé très serré à la machine. 50 pages pour raconter 5 années de guerre, de triste captivité, d'aventures malheureuses de multiples et rocambolesques évasions, dont la dernière réussit. Sinon, je ne serais pas avec vous derrière ce micro. Je vous propose donc maintenant la lecture de la quatrième partie de ce tapuscrit, avec le chapitre 10 qui démarre début avril 44. Jean Diaz a déjà vécu d'innombrables mésaventures où il aurait pu perdre la vie. Soldat français avec le grade de sergent, capturé en 1940, prisonnier en Allemagne, il est travailleur forcé. En août 43, tout bascule. Il agresse un soldat allemand, ce qui vaut condamnation à mort. Il s'évade et, chose inimaginable, va pendant des mois survivre en clandestinité, seul, sans papier, dans la ville de Königsberg. Il cherche à s'évader d'Allemagne et a peut-être trouvé un truc. Se mêler à des soldats espagnols qui rentrent chez eux après avoir combattu sur le front de l'Est. Chapitre 10. Cependant, ma situation est maintenant critique. Poursuivi et recherché comme je le suis certainement, la vie à Königsberg va devenir intenable. Il me faut donc partir au plus vite. Or, je sais par des Espagnols rencontrés au café que la division bleue rentre en Espagne et que des convois sont déjà partis. J'avais pensé depuis longtemps à ce mode d'évasion rendu alors difficile du fait que les soldats n'étaient rhabillés en espagnol que dans une lointaine ville d'Allemagne. Mais maintenant, cette difficulté n'existe plus. Les volontaires revenant de Russie ou d'ailleurs passent obligatoirement à Königsberg où ils déposent leur uniforme allemand et où ils en perçoivent un autre de l'armée espagnole. Car les Espagnols, comme tout volontaire étranger luttant aux côtés des Allemands, portent un uniforme Bosch avec, au bras gauche, les couleurs de leur pays d'origine. Ma décision est rapidement prise. Il me faut partir avec eux. Or, tous les Espagnols que je connais me croient de leur nationalité du fait que je parle correctement leur langue et que je porte à la boutonnière les trois flèches insignes de la phalange. Car avec les vicissitudes de ma vie d'évadé, je suis, selon les cas, espagnol, français, belge ou allemand. Je connais quelques phalangistes très bien placés et j'espère, avec leur appui, pouvoir partir avec la division en me faisant passer pour un volontaire civil espagnol, car il y en avait. Un volontaire civil espagnol venu en Allemagne travailler pour les Allemands et affligé du mal du pays. C'est la fable que je leur récite, mais je me heurte à la crainte des sanctions. Tous me donnent des conseils, mais aucun d'eux ne veut m'aider matériellement. Et les jours passent irrévocablement, et je vois avec angoisse que je ne pourrai pas mettre mon projet à exécution. Nous sommes déjà au 7 avril, et 5 jours ont passé en démarches stériles, en contre-marche et en course folle. Je sais que le 9, dimanche matin, un convoi part pour l'Espagne. Alors, je prends une grande résolution. Je fais part de mon projet à 2 Espagnols que je connais depuis longtemps et qui me considèrent comme étant de leur pays. Ils partent eux aussi dimanche et ils me promettent de m'aider et de ne rien dire. Le soir donc, à 11h, nous nous dirigeons vers l'hôpital espagnol. Ils doivent me faciliter l'entrée de la caserne. Par chance, la nuit est noire, et me faisant le plus petit possible entre deux, nous franchissons le poste de garde sous les yeux ensommeillés d'une sentinelle nonchalante. Une fois dans la cour, il me désigne un bâtiment où je trouverai ce qu'il me faut. À pas de loup, je me dirige dans la direction indiquée. On n'entend rien. Pas un bruit. Le silence est énorme. Le rez-de-chaussée est éclairé, mais le premier étage ne l'est pas. Feutrant mes pas, je projette le rayon de ma lampe électrique. Un pinceau lumineux troue l'obscurité et balaie un long couloir montrant des portes à droite et à gauche. J'avance prudemment et j'ouvre lentement la première porte. Une bouffée de chaleur et une lourde odeur de cuir et d'humanité me parviennent. Des respirations s'entendent, régulières, des souffles d'hommes endormis. La 2e chambre est occupée aussi, de même que la 3e, mais la 4e est vide. J'ai tôt fait de découvrir des vêtements épars dans tous les coins, pêle-mêle, en désordre, sur des chaises et sur les lits. Doucement, je referme la porte. Vite! Je choisis à ma taille des bottes, un pantalon, une vareuse, une capote, un ceinturon et un calot allemand et j'en fais un ballot. Pour revenir, je ne rencontre personne. Un calme pesant règne dans tout le bâtiment. Pour sortir de l'hôpital, je ne suis pas embarrassé. Pour y avoir travaillé, je le connais trop bien et je n'ai pas oublié une certaine brèche de la palissade. En un clin d'œil, je suis dehors, mon paquet sous le bras, et je me dirige vers un petit commando où j'ai un camarade sûr. La route est longue. J'y arrive enfin. Je fais un petit paquet de mes vêtements civils que je porterai avec moi, je donne quelques instructions à mon ami, et quand je me décide à prendre un peu de repos, il est 2h du matin. À 5h, je suis debout. Je revais mon uniforme chleu. Je boucle le ceinturon qui porte la devise « Gott mit uns », « Dieu avec nous », j'ajuste le calot et je me regarde dans la glace. Je ne puis m'empêcher de rire car sous le déguisement Bosch, je suis méconnaissable. Malheureusement, je n'ai pas au bras gauche les couleurs ibériques avec les lettres « Espagna ». Tant pis, si un Allemand me parle, je répondrai « Spanish ». Après avoir dit au revoir à mon ami, je gagne la rue d'un pas martial et décidé. La station de tramway n'est pas trop loin, mais je suis obligé de saluer une demi-douzaine de sous-officiers et d'officiers matinaux que je rencontre. Arrivé au tramway, je demande à la receveuse un billet pour l'hôpital espagnol et tarif militaire, s'il vous plaît. En entrant à l'hôpital, je salue encore le chef de poste et je me mets en quête de mes 2 Espagnols de la veille. quand je les retrouve, c'est justement l'heure du petit déjeuner. Nous nous attablons donc au réfectoire où je me régale avec du café au lait, du bon pain et du miel. Personne ne me remarque, personne ne fait attention à moi. Je mange, je parle avec les uns et les autres et ce premier contact me donne confiance en moi-même. Aussi, je me sens assuré du succès de mon entreprise lorsqu'avec mes deux Espagnols et quelques autres, je grimpe dans le camion auto qui doit nous emmener au lieu de rassemblement du convoi. C'est à Stablac Sud, à 60 km d'ici. Nous partons. La distance est rapidement parcourue. La police allemande de la route nous arrête à deux reprises pour vérifier les papiers de bord. Nous sommes en règle et nous arrivons bientôt. À la sortie d'un petit village, une grande caserne se dresse devant nous. La cour est spacieuse et une multitude de soldats revêtus de l'uniforme espagnol déambulent, se promènent, causent par groupe. Sitôt descendu du camion, je suis mes deux cicérons qui se dirigent vers un bâtiment, puis pénètrent dans une chambrée. Une quinzaine d'Espagnols s'y trouvent. Ils saluent les nouveaux arrivants et je lève la main comme eux.
« Arriba, España! Viva Franco !»
Le contact est pris. Je choisis un lit. L'après-midi, je me dirige vers le magasin d'habillement. Le magasinier ne me demande rien et me donne à choisir simplement. J'ôte mon uniforme allemand et je revais une culotte et une vareuse espagnole. Je choisis des brodequins et un béret rouge. Me voici espagnol. Je fais les corvées comme tous. Je vais aux cuisines chercher la soupe. Dans la chambrée, nous chahutons, nous mangeons, nous buvons du vin et du cognac. Je me mets très vite dans l'ambiance. L'après-midi du vendredi file, de même que la matinée du samedi. Le départ est fixé au dimanche matin, 9 avril, 4h. Et le samedi, vers 7h du soir environ, mes deux acolytes et moi, nous nous dirigeons vers la gare, distante de 2 km. Le train est formé. Nous y montons. Nous ne sommes pas les seuls. D'autres Espagnols nous ont déjà précédés. Plus tard, le gros du convoi arrive et nous attendons le départ avec impatience. Enfin, à 4 heures, le train s'ébranle. Nous partons. Que dire de ce voyage si ce n'est qu'aucun incident ne se produit? J'ai confiance. Personne ne s'intéresse à moi. J'ai bien une légère inquiétude au sujet du passage en Espagne. Comment franchirais-je la frontière? Mes deux Espagnols m'ont dit de ne pas m'en occuper. Aussi, mon inquiétude ne dure pas et je me laisse emporter loin, très loin de la Prusse, sans espoir de retour. Je suis heureux. Chaque tour de roue m'éloigne d'Allemagne et me rapproche de la France. Je me rends compte au hasard des villes traversées que les bombardements anglo-américains ont fait du bon travail. Et je jubile quand je vois des grandes cités comme Francfort-sur-le-Main, par exemple, réduites à néant et désertes. Et lundi, dans la matinée, j'ai la joie de reconnaître les molles ondulations de Lorraine. Quelle émotion vers midi, nous sommes à Metz où nous sommes reçus par la Croix-Rouge allemande. Je vois passer des civils français. La langue me démange. Je brûle de leur parler, de leur dire quelque chose, n'importe quoi. Mais je me retiens car il faut être prudent. Nous ne quittons Metz qu'à 16h, salués à bras tendus par les personnalités officielles allemandes et par les infirmières, et le train s'éloigne parmi les cris mille fois répétés de «
Heil Hitler !»
et
« Viva Franco !»
Le lendemain, mardi, nous sommes à Orléans vers 10h du matin, à Bordeaux vers 7h du soir, et tout le long de la Côte d'Argent, le train électrique file à toute allure vers la frontière espagnole. Je suis sur des charbons ardents, j'ai toutes les peines du monde à me contenir et mes appréhensions reviennent quelque peu. Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz. Nous approchons, et bientôt voici Hendaye, le terme de notre voyage. Nous avons couvert la distance Königsberg-Hendaye en près de 70 heures, car il est 11 heures du soir. Les quais de la gare sont assez obscurs, mais une fanfare joue l'hymne national espagnol quand le train entre en gare, puis la marche de la division. Des officiers allemands et espagnols se congratulent, se saluent, se serrent la main. Un grand brouhaha monte et le hall résonne bientôt de cris et de vivats, de chants et du bourdonnement de mille conversations ardentes et enthousiastes. Des ordres, des commandements éclatent cependant, dominant le tumulte, car on nous fait descendre du train. Sur un autre quai, le train espagnol est rangé,
nous attendons. C'est le moment le plus angoissant de mon aventure. S'il y a un appel nominatif de tous les hommes, je suis perdu. Mais mon inquiétude ne dure que peu de temps. Par petits groupes, nous sommes dirigés vers le quai. On nous désigne un wagon, des compartiments, et je monte, la joie dans l'âme, tout heureux de voir le problème résolu si facilement. Je m'installe et je commence à lire une revue espagnole déposée sur la banquette et j'attends. Quand partirons-nous ? Déjà, les bruits décroissent, la musique s'étue. Je pense que nous n'allons plus tarder à partir lorsque soudain se produit le coup de théâtre brutal et imprévisible, le coup de massue qui va mettre fin à mon voyage. Des officiers allemands et espagnols pénètrent dans le compartiment, viennent à moi, me prient de descendre et je me retrouve sur le quai encadré de boches en armes. J'ai beau dire que je suis espagnol, que je veux rentrer dans mon pays, sur un signe d'un officier, je suis conduit vers les bureaux de la gare où j'ai la rage et la douleur d'entendre bientôt partir le train, ce train qui file sans moi vers l'Espagne et grâce auquel j'aurais pu être libre. Je ne comprends pas mon arrestation. Est-ce que mes deux acolytes m'auraient dénoncé ? Ou bien ont-ils eu le malheur de se confier à quelqu'un ? Je l'ignore totalement et c'est en ruminant ces pensées que je me présente au premier interrogatoire. Un lieutenant allemand me questionne. À quoi bon mentir davantage puisque le train est parti et puisque certainement j'ai été dénoncé ? Je reconnais donc être prisonnier français évadé d'Allemagne depuis le 9 avril 1944 et c'est à la prison d'Andaille, sur la dure planche de la cellule, que prend fin ma tentative d'évasion si laborieusement conçue.
Seul ce soir avec ma peine, j'ai perdu l'espoir de ton retour, et pourtant je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seul sans ton amour.
Chapitre 11. Me voici donc ce 11 avril 1944, de nouveau dans les pattes des Boches. Cependant, une pensée me console. C'est que je suis en France et que l'Allemagne est bien loin derrière moi. Le régime alimentaire de la prison n'est pas trop mauvais. Soupe, légumes et pain deux fois par jour. Il y a longtemps que je n'avais pas été à pareille fête. Le lendemain, je suis changé de cellule et j'ai pour compagnon un pauvre menuisier français qui est là pour une pauvre peccadille depuis 3 mois et qui n'a pas encore été interrogé. Le 13 au matin, je suis à peine éveillé lorsqu'un gardien vient me chercher et m'emmène à peine vêtu. C'est l'interrogatoire. Deux hommes dans une pièce du premier étage m'attendent, l'un assis devant une machine à écrire et l'autre dans un fauteuil. Cet homme est petit et a les yeux bleus. Il a une quarantaine d'années et grisonne légèrement. Après m'avoir d'un signe intimé l'ordre de m'asseoir, il me fait décliner mon identité. Puis soudain, sans que rien n'ait pu me faire prévoir son geste, il se lève d'un bond. « Savez-vous à qui vous avez affaire » hurle-t-il. Je réponds « Non », froidement, en le regardant calmement dans les yeux. Alors il se rue sur moi. « À la Gestapo !» crie-t-il, et m'envoie à toute volée une série de gifles et de coups de poing sur la figure. « Cela, dit-il encore haletant, c'est pour vous avertir que vous devez dire la vérité. Sans cela, ce sera beaucoup plus terrible, croyez-moi. » Cela ne m'empêche pas de ne pas dire la vérité. Je n'ai pas intérêt à avouer mon affaire du 7 août 1943, mon évasion précédente et le genre de vie que je menais à Königsberg. Je dis simplement que je ne suis évadé que depuis quelques jours. « Parce qu'on vérifiera, dit l'inspecteur. « Et si vous avez menti ?» Et un geste terrible de menace termine sa phrase. Il me déclare ensuite que je suis juif. Une nouvelle série de coups suit cette déclaration. Je me défends comme un beau diable contre cette accusation ridicule et non fondée et j'ai toutes les peines du monde à le convaincre que je suis un pur à rien. Enfin, au bout de 2 heures d'un interrogatoire serré, fatigant et fastidieux, je suis reconduit dans ma cellule. Le lendemain, 14 avril, encadré par 2 SS armés jusqu'aux dents, je suis conduit à Bordeaux et je vois la porte rébarbative du fort du A s'ouvrir et se refermer derrière moi. une angoisse indicible m'étreint. J'ai la sensation de manquer d'air sous ces voûtes sonores, derrière ces épaisses murailles. Ici, le mot d'ordre est « visage au mur !» Et tout détenu doit se coller la face contre la muraille, main derrière le dos. Au greffe, un sous-officier allemand m'enlève ma montre, ma chevalière, mon argent, tout ce qui a quelque valeur. On me laisse tout de même mon alliance. Une deuxième fouille, un peu plus loin, me démunit de ce qui me restait dans les poches. Couteau, lampe, tabac, etc. Les doublures de mes vêtements sont soigneusement visitées, mes poches retournées. On ne me laisse que mon mouchoir. Puis on me distribue une gamelle, un quart, une cuillère. À la douche, on me dépouille de mes vêtements, on me les rendra quelques jours plus tard, et on m'affuble de l'uniforme de la prison, livrée infâme, rugueuse, sordide, confectionnée avec de vieilles couvertures. Et les grilles de la prison proprement dite s'ouvrent devant moi. Je vois alors une espèce de hall, long et large, de forme rectangulaire. Il y a en plus du rez-de-chaussée deux étages, le long desquels court un étroit chemin de ronde bordé d'un garde-fou. Une multitude de portes basses hérissées de targettes et d'énormes verrous sont encadrées dans le mur et sur les portes des fiches numérotées bleues et rouges indiquent le nombre de détenus présents dans la cellule. Avec un horrible fracas et un effroyable cliquetis de fer et de clés, la porte de la cellule 109 au premier étage s'ouvre devant moi et se referme.
Avertissement aux personnes sensibles. La suite de ce récit comporte des descriptions de violence, torture, mutilation.
Je me retrouve en présence de 8 hommes figés au garde-à-vous car la discipline de la prison exige qu'il en soit ainsi dès que la porte s'ouvre. Il y a 2 lits en fer dans la cellule, l'un à gauche, l'autre à droite, collés contre le mur, et c'est dans cet intervalle que les détenus s'alignent. À part les lits, la cellule est nue. Elle mesure 4 mètres de long sur 2,50 mètres de large. La fenêtre étroite est fermée de 8 épais barreaux et un auvent, placé à l'extérieur devant la fenêtre, cache la vue et ne laisse entrevoir à la partie supérieure où un grillage est tendu qu'un petit pan de ciel. Dans un coin, les WC sont aménagés, sans porte naturellement. Nous tirons la chasse d'eau quand nous voulons boire, nous lavons notre linge dans les gamelles, nous couchons par terre sur des paillasses plus qu'à moitié vides, car il y a 5 paillasses pour la cellule. Ici, nous sommes en réclusion, nous ne sortons jamais si ce n'est pour la douche et le coiffeur. Tous les 15 jours, des coiffeurs, choisis parmi les détenus, nous rasent dans le hall sous la surveillance des gardiens. Les 4 murs de la cellule confinent notre horizon. De temps en temps, mais trop rarement hélas, nous allons à la fume. Les détenus qui ont des étiquettes bleues y ont droit. Les bleus sont accusés de marché noir, de faute légère, d'avoir essayé de franchir la frontière, etc. Les rouges sont les maquisards, les hommes de la résistance, les saboteurs, les insoumis, etc. et n'ont pas droit à la fume. Souvent même, ils ne peuvent aller à la douche. Donc, les rares fois où la fume a lieu, les gardiens ouvrent à grand renfort de jurons et de cliquetis de serrures les cellules pourvues d'étiquettes bleues et en font précipitamment sortir les ayants droit. Ils les font aligner dans le hall, visage au mur. Puis, à un ordre donné, les grilles s'ouvrent et les détenus, au pas de gymnastique, se rendent dans une cour intérieure de la prison, encadrée et gardée à vue par une multitude de gardiens en armes. À un autre commandement, ils se mettent au garde-à-vous face à l'adjudant de service, sur une seule ligne, et tendent les 2 mains, paumes ouvertes vers le ciel. L'adjudant passe devant chaque homme et dépose dans chaque main une gauloise verte qu'il puise dans une gamelle. Un autre signal, et tout le monde met la cigarette à la bouche. Puis, un boche passe avec un papier enflammé et allume chaque cigarette. Celle-ci terminée, un second Allemand vient avec un récipient à demi rempli d'eau et chaque détenu dépose son mégot dans le récipient. Tout le monde goûte avec volupté cette cigarette et cette minute divine de liberté qui ne remplace qu'imparfaitement l'heure de la promenade quotidienne à laquelle nous avons droit et que nous n'avons jamais eue. Hélas! La cérémonie de la fume ne se produit que rarement, et à chaque fois, il faut faire bien attention à avoir les pieds sur la même ligne que son voisin, à ne pas parler, à ne pas tourner la tête, à ne pas essayer de couper un bout de cigarette, car tout délinquant reçoit une distribution de coup d'énorme clé d'abord et va faire ensuite un stage au mitard, c'est-à-dire au cachot noir, où le régime alimentaire est réduit de moitié. Ce régime est déjà bien piteux. D'abord un petit morceau de pain, puis une soupe claire à midi et une autre soupe claire l'après-midi. Le pain est infect, gorgé d'eau, puant la moisissure. Quant à la soupe, c'est de l'eau légèrement salée où flottent de temps en temps quelques feuilles de légumes ou quelques morceaux de carottes non épluchées. Nous avons faim du matin au soir, une faim horrible qui ronge l'estomac et nous fait rêver tous les soirs de mangeailles et de repas pantagruéliques. Aussi, quelle déception tous les matins de retrouver la morne cellule grise où flotte une chaleur et une odeur suspecte, car dans ce petit espace de 2,50 m sur 4, aéré simplement par une étroite fenêtre, nous sommes 7, 8, 9, 10 hommes plus ou moins propres qui ne sortent jamais et qui font leurs besoins dans la cellule même. Nous sommes anémiés à un tel point que nos dents sont translucides et que nous sommes tous d'une pâleur effrayante. De temps en temps, il y a un sortant, sitôt remplacé par un rentrant. Aussitôt, nous nous précipitons sur lui, nous l'assaillons, nous l'entourons pour avoir des nouvelles extérieures, nouvelles qui, dès que les Allemands quittent leur travail, circulent de fenêtre en fenêtre et font le tour de la prison aux grandes dames des sentinelles furieuses. Nos gardiens sont choisis parmi les plus sévères. Il y a des brutes infâmes qui distribuent des coups de clé à tout venant et assomment, tuant même à coups de barre de fer dans les cachots où ils sont au secret, de pauvres prisonniers rendus fous par le régime ou la souffrance. Les gardiens savent que nous fumons quelquefois. Nous réussissons en effet à avoir un peu de tabac en vidant minutieusement les poches des entrants. Chaque cellule possède une cachette, soit dans le plancher, soit dans une fente du mur, soit dans les paillasses, cachette qui échappe aux perquisitions les plus minutieuses. Une pierre à briquet, un morceau de verre, un peu de celluloïde suffisent à faire du feu, et la cigarette confectionnée avec tant de peine et fumée à la cessation du travail, passant goulûment de bouche en bouche. Les gardiens, plusieurs fois par semaine et pendant une certaine période tous les jours, nous font sortir et visitent la cellule consciencieusement. N'ayant rien trouvé, ils nous font rentrer l'un après l'autre, nous font déshabiller, tâtent les doublures des vêtements et fouillent même sur nous. Quant à la visite des barreaux, elle a lieu deux fois par jour, le sous-officier de service contrôlant matin et soir dans chaque cellule leur solidité. Les brutes nous empêchent même de chanter et viennent frapper à la porte de la cellule à grands coups de crosse de fusil dès qu'un chant s'élève. Malgré tout, le moral est bon tout de même. Nous trompons l'ennui comme nous pouvons en marchant à tour de rôle dans l'étroit espace libre existant entre les lits ou en parlant de choses et d'autres. La plupart de mes camarades ont été incarcérés parce qu'ils étaient soupçonnés par les Allemands de faire partie de la résistance. Plusieurs sont là depuis des mois et sans être interrogés une seule fois seront dirigés sur l'Allemagne. Le sous-chef de garde de Bordeaux, quelques jours après son arrivée dans la cellule, est conduit à l'interrogatoire et il n'en revient que trois jours après, la figure boursouflée, le dos et les bras complètement noirs et méconnaissables à la suite des coups de cravache reçus. Un jeune gars de la résistance fait son entrée un jour dans la cellule. Il vient de tuer dans la rue un ancien membre de son organisation passé à l'ennemi et qui donnait des renseignements aux Boches. Il a ses vêtements ensanglantés. Il a deux blessures, une légère à la tête et une balle dans la cuisse. Pendant un mois entier, il restera en cellule, cuisiné à tout bout de champ et sans soin. Au bout de ce laps de temps, il est fusillé. Nous nous entretenons avec horreur des exploits de la Gestapo allemande et française et ceux du commissaire Poinceau, chef de la SAP, section des affaires politiques, d'abord à Bordeaux, puis à Vichy. Ces brutes sanguinaires n'hésitent pas à torturer les malheureux qui sont entre leurs mains. Ils les battent à coups de cravache et de nerfs de bœuf, ils les pendent par les bras ou par les pouces ou par les pieds, ils enfoncent des allumettes sous les ongles des patients, ils les déshabillent et les font asseoir sur un poêle rougi par le feu, ils leur enlèvent la peau des joues et mettent du sel sur la blessure, ils frappent les hommes dans les parties génitales et les femmes dans les seins. Plusieurs camarades nous montrent des traces de leur martyre et nous sommes soulevés de fureur et d'indignation. Cependant, je m'occupe de ma situation personnelle. Étant prisonnier de guerre, je ne veux pas être considéré comme prisonnier politique et subir cette réclusion injuste. Aussi, je demande plus de 20 fois à parler au chef de la prison, et quand là de mes doléances et de mon obstination, on me mène devant un inspecteur, je réclame de toute mon énergie contre ce régime qui ne devrait pas être le mien, et je demande ma réintégration dans un camp de prisonniers de guerre. Sur ce, je subis par la suite plusieurs interrogatoires aussi fastidieux et aussi longs que le premier. Vers le second mois de ma détention, je figure sur une très longue liste de détenus à destination de l'Allemagne, mais arrivé à la gare, mon nom n'est nulle part, et je retourne en prison. Au mois de juillet, je suis encore désigné, mais les Anglo-Américains bombardent les gares le jour même de notre départ, et celui-ci est ajourné. Je suis changé de cellule et affecté à la cellule 74, au rez-de-chaussée. Enfin, le 9 août, avec 27 autres camarades, je quitte le fort du A. Nous sommes enchaînés deux à deux et embarqués dans des camions qui nous conduisent à la gare où un wagon à bestiaux spécialement gardé et barricadé nous attend et nous accueille. Nous ne sommes pas seuls. Le convoi est composé d'au moins 500 détenus, dont deux wagons de femmes auxquels viennent s'ajouter de 200 à 300 gendarmes allemands rapatriés sur l'Allemagne. Quant à notre wagon, il est l'objet d'une surveillance spéciale. 7 à 8 sous-officiers, un adjudant et une dizaine d'hommes de troupes nous gardent, logés dans un wagon qui suit immédiatement le nôtre. Le wagon qui nous précède est un wagon de gendarmes. Nous sommes donc bien encadrés. La plupart de mes camarades sont condamnés à de grosses peines, 25 à 30 ans de réclusion. Plusieurs sont condamnés à mort et sont enchaînés. Quant au wagon, il est bien fermé. Les portes sont verrouillées et les petites fenêtres barrées par des planches et des fils de fer barbelés. Oh wagon, maudit wagon de la mort, nous ne savions pas que tu allais nous servir de demeure et de tombeau roulant pendant 17 jours, pendant 17 longues et interminables journées de supplice et de souffrance. Chapitre 12. Nous quittons Bordeaux au matin du 10 août. Nous sommes au courant du débarquement allié en Normandie et nous pensons que si nous quittons Bordeaux, c'est parce que les Allemands battent en retraite, s'enfuyant devant les Américains qui sont déjà à La Rochelle. Aussi, malgré notre inquiétude, nous sommes contents tout de même. Nous roulons lentement, nous arrêtant souvent, dépassant ou dépassés par des convois militaires Bosch camouflés. Mais nous ne montons pas vers le nord, car les voies de communication sont coupées. Nous descendons vers Agen, direction Toulouse, que nous atteignons à minuit. Nous sommes couchés à même le plancher du wagon et nous nous félicitons de n'être que 28, car les autres wagons contiennent de 55 à 60 hommes. Le 11, nous passons à Carcassonne, Castelnaudary, puis à Béziers, où nous nous arrêtons quelques heures et nous atteignons 7. Je ne m'aperçois de tout cela que vaguement. Je ne me sens pas bien depuis le départ de Bordeaux. Et soudain, après 7, la crise se déclenche. Je vais rester pendant 5 jours entiers malade à mourir, perdant connaissance pendant des heures entières, sans soin d'aucune sorte, en proie à la diarrhée, à la dysenterie, vomissant de la bile presque sans arrêt. Heureusement que dans le wagon, il y a un récipient servant de WC où les camarades me traînent à tout instant. Je me sens plus faible qu'un enfant. Je n'ai pas la force de faire des gestes et c'est d'une voix à peine perceptible que je m'adresse à mes compagnons. Je n'ai pas faim, mais j'ai une soif atroce. Nous avons obtenu un peu d'eau et quand on m'en met dans la bouche, je me force à ne pas la boire et à me rafraîchir simplement le palais. Quel horrible supplice que celui de la soif! Au bout du 5e jour, quand je sors enfin de ma léthargie et que je me décide à prendre quelque nourriture, on me dit que nous sommes à Nîmes. Le train est arrêté. Il ne peut pas continuer car les ponts ont certainement sauté. Et alors, j'entends le canon et j'apprends le débarquement allié en Méditerranée. Quelle joie si nous étions immobilisés ici jusqu'à l'arrivée de nos amis. Hélas, nous n'arrêtons pas de fuir devant eux malgré les 1000 difficultés rencontrées sur notre route. Le lendemain soir, en effet, le train s'ébranle, parcourt quelques kilomètres, puis s'arrête. Au petit jour, tous les prisonniers descendent sous la bonne garde des gendarmes. Ceux-ci nous chargent de tout leur bagage, valises, sacs, munitions, et nous partons sur la grande route. Nous marchons. Nous laissons Orange à quelques distances. Nous traversons Châteauneuf-du-Pape de part en part et nous prenons la direction de Sorgues. Sur la route, c'est un défilé lamentable et ininterrompu de pauvres prisonniers chargés comme des mulets. Je suis exténué et littéralement fourbu, n'ayant pas encore repris mes forces perdues pendant ma maladie et pliant sous le poids d'une grande caisse à munitions pleine. Il fait une chaleur accablante. Nous longeons des vignes, nous voyons et nous lorgnons des grappes superbes de raisins à quelques mètres de nous. C'est le supplice de Tantale. Quiconque s'approche des vignes est abattu sur le champ. Pas d'eau, un soleil de feu et la route interminable qui s'allonge sans cesse et dont le ruban poussiéreux se déroule à l'infini. Enfin, nous atteignons Sorgues. Mes 27 camarades et moi montons dans un wagon qui nous est assigné et nous attendons les événements. Ceux de mes compagnons qui étaient enchaînés le sont toujours et ont fait la route les mains liées derrière le dos. Nous quittons Sorgues au matin, mais nous ne roulons pas longtemps. En arrivant à Livron, nouveau transbordement car le pont a sauté, là aussi. Les cheleux nous remettent leurs bagages sur le dos et solidement encadrés, nous nous préparons à faire les quelques kilomètres qui nous séparent de l'endroit où la voie n'est pas démolie. Mais soudain, l'alerte! Voici qu'une vague d'avions américains venus de l'horizon nous survole et nous bombarde copieusement. Cette vague passée, une autre accomplit la même besogne, puis une autre, et quand la poussière s'est enfin dissipée, nos gardiens reprennent possession de nos précieuses personnes et à travers les entonnoirs creusés par les bombes, nous conduisent vers le train qui nous attend, miraculeusement intact. Nous repartons quelques heures après, et soudain, un avion venu d'on ne sait où passe au-dessus de nous avec un vacarme effroyable et crible le convoi de balles de mitrailleuses. Nous n'osons plus bouger, aplatis dans la poussière du wagon, lorsque l'avion revient une deuxième et une troisième fois, puis disparaît définitivement. Bilan, 8 morts, dont 2 Allemands et 5 blessés qui seront descendus à Montélimar. Quelques heures après, nouvelle alerte. Un avion encore fonçant sur le train, le mitraille à bout portant et crève la chaudière de la locomotive. Nous voilà immobilisés, mais pas pour longtemps, car une autre locomotive venue de Montélimar s'accroche au convoi et l'entraîne. Nous nous demandons ce que signifient toutes ces agressions, mais nous saurons plus tard que tous les chefs de maquis ont reçu l'ordre d'arrêter coûte que coûte ce train qui va à Metz et dont les détenus sont condamnés à mort. Montélimar, puis Valence passe devant nous. Nouvel arrêt à Valence, où nous nous arrêtons 2 jours. Le pont est démoli. Quand il sera réparé, nous repartirons. Nous sommes hébétés, abrutis par ce voyage éreintant. La chaleur est intenable dans ce wagon surchauffé par un soleil de feu. Nous ne sortons jamais. Les boches n'ouvrent qu'une fois par jour les portes de notre prison roulante pendant 5 minutes pour nous donner la maigre pitance du jour. 2 kilos de pain pour 28 hommes et de la marmelade. Quant à l'eau, ils nous la donnent dans un vieux pot de confiture. Il y a 5 à 8 litres d'eau peut-être, soit une gorgée chacun pour toute la journée. Aussi, nous avons une soif ardente et nos organes souffrent du manque de liquide. Quelques-uns d'entre nous urinent du sang vers la fin du voyage. Nous sommes maigres, barbus à faire peur, sales, souillés de poussière, et à cause de la chaleur, nous sommes tous nus comme des vers. De temps en temps, la Croix-Rouge française essaie de parvenir jusqu'à nous dans les gares et remet pour nous quelques aliments aux boches. Mais ceux-ci se gardent bien de nous les distribuer. Personnellement, je souffre autant de la faim que de la soif, et mes forces ne reviennent pas vite. Je saurai plus tard que j'ai perdu 16 kilos. Un peu après Valence, nouveau transbordement et nous roulons maintenant, malgré maints arrêts, sur une voie à peu près libre. Mais dans quel état sont les bas-côtés, les maisons bordant la ligne, les gares? Tout est démoli, arraché, calciné. Des entonnoirs de bombes, des débris de toutes sortes jalonnent notre route. Les boches dans les gares désertes ne se gênent pas pour piller les wagons, même ceux de la Croix-Rouge. Mais ils ont une peur affreuse des avions. Il faut les voir dès qu'un appareil est signalé, s'égayer et s'enfuir dans la campagne, nous abandonnant à notre triste sort, enfermés solidement dans notre wagon. Le maquis, selon les ordres reçus, essaye à 5 reprises d'arrêter le convoi, l'attaquant et le mitraillant dans les bois que nous traversons. Mais hélas, sans succès, et le train fuit toujours, continuant sa course inexorable et nous entraînant vers notre destin. C'est ainsi que nous atteignons Lyon, puis Mâcon, Chalon-sur-Saône, Dijon, et que nous entrons dans la Haute-Marne. Alors que nous étions stoppés à Nîmes, les Allemands nous avaient permis de descendre pendant une demi-heure. Or, pendant ce court laps de temps, nous avions trouvé moyen, pensant à l'évasion, de rentrer dans le wagon 2 barres de fer et des gros cailloux, et un de nous avait trouvé un couteau qu'il avait caché soigneusement. Or, les fridolins s'étaient aperçus que nous cachions quelque chose dans le wagon. Ils avaient fouillé celui-ci, et alors, pris d'une colère terrible, ils avaient roué de coups et assommé à l'aide des barres de fer ceux de nos camarades qu'ils avaient cru coupables. Depuis, ils ne nous avaient jamais plus permis de sortir. De plus, la surveillance s'était resserrée. Nous ne roulions jamais la nuit, et de ce fait, l'évasion était difficile. De plus, un gardien se tenait constamment, quand le train était en marche, sur un des marchepieds du wagon et un autre dans la cabine du serre-frein. Tous deux descendaient à terre dès que le train stoppait et ne remontaient à leur poste que lorsque le convoi s'ébranlait, non sans avoir au préalable regardé sous le wagon et sur la toiture. Nous avions l'intention de nous évader dès que le train roulerait de nuit. Quant à nos camarades enchaînés, nous leur avions depuis longtemps ouvert les menottes à l'aigle d'une épingle de sûreté. La nuit, nous leur quittions les fers, et le jour, nous leur remettions. Donc, ce jour du 26 août, nous sommes en Haute-Marne. Cela fait 17 jours épouvantables que nous voyageons, et soudain, nous éprouvons une grande joie, car il fait presque nuit, et le train roule toujours. Il marche, et la nuit tombe de plus en plus. Alors, un rapide conseil de guerre se tient. Nous évadons-nous ce soir? Les uns ne veulent pas, les autres veulent, et parmi eux, un pauvre tuberculeux, père de 6 enfants. Le pauvre homme est à l'agonie. Il n'a qu'un poumon, et les mois passés au Fourdua ont fini de le tuer. Ses membres sont d'une maigreur effrayante, et il a subi le voyage presque sans manger, blotti dans un coin du wagon, respirant de plus en plus mal et de plus en plus haletant. Mais lui n'a pas la force de se sauver, et s'il donne son adhésion, c'est pour que tout le monde s'échappe. Il partira aussi, dit-il. En réalité, le pauvre diable restera là. Aussitôt, nous nous mettons à la besogne. Il s'agit, à l'aide du fameux couteau trouvé, canif plus que couteau, de percer la cloison du wagon et d'y pratiquer une ouverture à l'endroit où la barre de fermeture de la porte, étant rabattue, s'engage dans son alvéole. De plus, la barre est rattachée à l'alvéole par de solides fils de fer. Mais cette porte est du côté extérieur de la marche du train, c'est-à-dire qu'en sautant, on tomberait dans le fossé et non sur une autre voie. Par chance, le gardien se trouve à l'autre porte, sur le marchepied opposé. À la besogne donc. Le roulement du train empêchera le boche d'entendre. C'est un travail de longue haleine. Le bois est dur et épais. L'obscurité règne. Il faut travailler à l'aveuglette et se relayer. Courage ! Avec de la ténacité, on arrive à tout. Et peu à peu, l'ouverture s'agrandit, s'ouvre de plus en plus. Encore, encore, nous haletons, nous trépignons d'impatience. Encore un peu, encore. Et soudain, le trou est suffisamment grand pour y passer la main. Ôtons d'abord les fils de fer. Ils sont solidement attachés, mais les nœuds cèdent un à un et disparaissent tous enfin. Le fil de fer est enlevé. La barre maniée avec précaution se soulève sans difficulté et sort de son logement. Ça y est, le dernier obstacle est tombé. Il ne reste plus qu'à faire glisser la porte et qu'à partir. Déjà, nous sommes tous debout, nous bousculons à qui s'échappera le plus vite. Mais doucement, pas de bruit. Il faut établir un tour, les plus grosses peines d'abord, les plus vieux ensuite. Et la porte, lentement, lentement s'ouvre, grinçant légèrement et découpant dans la nuit un rectangle plus clair, plus large au fur et à mesure qu'elle s'écarte, par où pénètre une bouffée d'air vivifiant et frais. Déjà, un bruit faible de cailloux éboulés me fait savoir que l'un d'entre nous est parti, puis un autre, et un autre encore. La nuit est noire. Le train roule, roule toujours, semant de minute en minute un homme qui fait ébouler légèrement des cailloux du ballast et qui s'engloutit dans l'obscurité. Mon tour approche, et me voici avec un camarade sur le marchepied.
Il disparaît tout à coup et soudain, un éclair troue l'ombre tout près et une détonation claque, sèche et courte.
Je ne saute pas, plein d'angoisse, craignant le Boche aux aguets maintenant, le doigt sur la gâchette de son fusil, prêt à abattre la première forme humaine qu'il apercevra. Je rentre dans le wagon, indécis, et le train fuit toujours. Puis, oh terreur, voici qu'il ralentit. Qu'il ralentit de plus en plus et stoppe presque aussitôt. Nous sommes très peu nombreux maintenant et nous n'avons que le temps de nous précipiter et de fermer la porte. Pas tout à fait pourtant, car elle s'est coincée. Et j'entends le pas du Schleu qui foule le sol. Il parle. Oh joie ! Il est descendu du côté opposé. Il ne peut donc voir la porte ouverte. Mais la minute est terrible.
Si le train ne repart pas, il va venir, et alors il nous tuera tous.
Les secondes semblent des siècles, s'écoulent. Nous ne respirons pas, muets. Le cœur étreint par une indicible angoisse. Et soudain, nous respirons car un sifflet loin devant nous déchire faiblement le silence. Insensiblement, le train s'ébranle, avance, s'en va enfin, puis court et fonce. Déjà, nous avons rouvert la porte. Debout sur le marchepied, je scrute la nuit. Le train va trop vite, je vais me tuer. Un talus se dresse, interminable. Ce train va-t-il aller moins vite ? Oui, sa vitesse diminue un peu. Encore un talus, un bouquet d'arbres, un nouveau maudit talus. Un fossé, enfin ! J'entrevois cela vaguement dans l'ombre qui m'enveloppe, je prends mon élan, je saute. Je prends contact avec le sol, la paume de mes mains heurte la terre et mon corps, du fait de la vitesse du train, décrit un mouvement giratoire, tombant dans un buisson qui craque et où je me blottis. Je n'ai pas de mal, aucun, sauf les paumes qui me brûlent et à plat ventre, aplati, écrasé parmi les herbes, je regarde le train qui passe, qui défile devant moi. Je compte des wagons, cela ne va donc jamais finir. 45, 46, 47... Une lanterne rouge. C'est fini. La lueur de la lanterne s'éloigne de plus en plus, devenant de plus en plus petite, et enfin disparaît tandis que j'entends encore le roulement du train sur les rails vides maintenant devant moi. Je suis libre. Je suis libre, enfin ! Je me le répète maintenant et je n'ose pas le croire. Le cauchemar serait-il fini ?
Et soudain, je ris doucement. Je ris de penser à la tête que feront les Schleux quand ils trouveront le wagon vide.
Vide, ou presque, car le tuberculeux ne sera pas parti. Pauvre homme.
Tout à coup, on m'appelle par mon nom à quelque distance.
C'est un camarade qui a sauté après moi et qui est tombé à une cinquantaine de mètres du point de ma chute. Nous nous congratulons et nous prenons une décision rapide, nous éloigner de la voie et marcher vers le sud. Mais le ciel est nuageux, il est impossible de voir les étoiles et par conséquent de se diriger. Alors nous nous enfonçons dans la forêt et nous marchons toute la nuit en aveugle, au hasard, nous fourrant dans les buissons épineux d'où nous avons toutes les peines du monde à sortir, marchant, errant sans arrêt, nous éloignant le plus possible, cherchant au passage des fruits sur les arbres car nous avons faim, les Allemands ayant oublié de nous donner à manger depuis 36 heures, allant toujours dans la forêt obscure, sursautant au moindre bruit, fouillant les ténèbres d'un œil soupçonneux. Et à l'aube, nous voyons un sentier que nous empruntons et qui nous mène à une route. La route à un petit village où nous demandons asile à un cultivateur et où nous apprenons que nous sommes à 60 km de Troyes, entre Chaumont, Langres et Neufchâteau. Nous apprenons que les Américains ont dépassé Troyes, qu'ils avancent et que les Allemands sont encore ici. Mais nous apprenons aussi le lendemain que deux de nos camarades ont été retrouvés sur la voie par des paysans à quelques kilomètres d'ici, l'un la colonne vertébrale brisée et l'autre les deux jambes broyées par le train. Ils mourront tous deux à l'hôpital de Neufchâteau. Nous sommes choyés, dorlotés, munis d'argent et de vêtements neufs, hébergés pendant 17 jours par cette famille admirable de bons Français qui finalement nous aident à traverser les lignes allemandes et nous mettent en présence des premiers éléments de l'armée de Leclerc le 11 septembre 1944. Ainsi finit mon odyssée, car mon voyage vers Paris puis Marseille ne présente aucun intérêt et le 24 octobre 1944, j'eus le bonheur de fouler de nouveau le vieux sol natal d'Algérie et d'embrasser après 5 années d'absence ma chère famille. Mais je garde au plus profond de moi-même le souvenir de mes malheurs et de mes peines et dans mon cœur une haine farouche et tenace envers le sale Boche exécré qui sera vaincu, foulé aux pieds et ne pourra ainsi plus jamais nuire. Jamais. Jamais. Jean Diaz, Sidi Belabès, récit écrit entre le 15 novembre et le 27 décembre 1944.
Et voilà les amis, c'est ici que s'achève le récit des 5 années de guerre de Jean Diaz, texte rédigé pendant l'hiver 1944, alors que le Troisième Reich n'était pas encore vaincu. Vous aurez bien sûr remarqué l'usage des mots « Boche » et « Schleu ». Sachez que je n'ai jamais entendu mon grand-père dire ces mots-là, ni aucun autre gros mot d'ailleurs. Jean Diaz aimait bien les Allemands, dont il parlait très bien la langue. Et je ne l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit de raciste, ni sur les Allemands, ni sur qui que ce soit. On va bientôt se quitter, mais avant cela, j'aimerais adresser un amical salut à la famille procureur des paysans du village de Chalvraine, en Haute-Marne, qui recueillirent Jean Diaz après son évasion et qui devinrent des amis de mes grands-parents. C'est donc ici la fin du premier épisode de cette série à venir autour de l'histoire du train fantôme, dont les prochains chapitres vous emmèneront à Sorgues, petite ville du Vaucluse, que le 18 août 1944, les déportés du train fantôme traversèrent à pied. Vous avez donc pour la prochaine fois rendez-vous avec deux témoins et acteurs de cette histoire. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur notre site, polymixetlavoixoff.com, avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio préférée. À suivre, salut.